Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, Donald Trump, c'est président des États-Unis pour encore une semaine, mais c'est aussi un homme d'affaires. J'allais dire c'était, mais lui, c'est pas des parties de son empire quand il est entré en politique. Et sa banque d'affaires principale, c'est la Deutsche Bank. Et là, la Deutsche Bank, banque allemande, vient de le larguer.
En fait, larguer est un grand mot. On ne va plus faire de nouvelles affaires avec Trump. Bon, regardons dans quel type d'entreprise Trump est impliqué. Parce que Trump, depuis le début de son existence, on s'entend, il a été dans les avions, les steaks, il a tout fait. Il a été dans l'immobilier beaucoup, les casinos. Et donc, ses actifs sont des actifs qui, en temps de COVID, ne sont pas, peut-être pas des actifs super intéressants, Patrick.
Okay.
Et donc, les faillites, pas les faillites, mais les protections de la faillite qu'il y a eu dans ces compagnies ont fait peur aux banques américaines à une autre époque. Et donc,
parce qu'il faut le dire, il a fait faillite souvent, Donald Trump.
Ben, en fait, c'est mis sous la protection des créanciers du chapitre 11, ses entreprises. Lui, personnellement, c'est une autre chose. Mais ce qui est drôle, c'est de dire, il a vraiment un modus operandi, Patrick, de partir des projets, être bully. Tu sais, c'est faire payer les autres et s'en sortir. C'est pas mal. En gros, là, quand tu lis sur l'histoire des affaires de Trump, c'est pas mal ça. Et donc...
Et il y a une réputation de pas payer ses fournisseurs.
Aussi. Et il y a des témoignages sur Internet d'un architecte de son club de golf. Plein d'affaires. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des employés, par exemple, qui avaient investi dans une des entreprises, puis on l'accuse d'avoir mis des dettes personnelles dans les dettes d'entreprise, d'avoir mélangé tout ça. Et donc, en somme... Si tu regardes son portrait de dette déclaré selon ce que les médias rapportent, mais c'est sûr que la Deutsche Bank, sur les centaines de millions qu'il a, représente 300 millions environ. Et ce qu'on disait pendant sa présidence, c'est un président avec autant d'intérêts étrangers avec des dettes dans ses compagnies et peut-être, disons, pas tout à fait impartial. Donc, il y a beaucoup de collatéral. Là, son immobilier est en collatéral, en garantie. Et quand on regarde les échéances, Patrick, de toute façon, on est dans du 2022, 2024, 2029, 2048. Donald Trump va être mort. Il y a des dettes qui ne seront jamais payées de son vivant. Et donc, ce qui est drôle, c'est de dire...
Mais attends, écoute, on peut ne pas l'aimer, mais il y a une vigueur à M. Trump quand même.
Oui, mais 2048, Patrick... Ah,
j'avais compris 2028.
Non, non, 48, mais là, c'est un 5 millions. Si je vois la Deutsche Bank, c'est plus récent, là. 2024, la plus loin. Mais on s'entend, là, il faut trouver d'autres financements ailleurs. Mais présentement, annoncer, Patrick, présentement, que tu n'es pas avec Donald Trump sur des futures affaires. C'est pas un gros call politique et de business.
Non, mais penses-tu que Deutsche Bank aurait fait ça il y a un an?
Non, jamais. Et penses-tu que Deutsche Bank aurait continué à faire affaire avec Donald Trump avec la nature de ses investissements, avec ce qui arrive présentement avec la COVID? Peut-être pas de toute façon. Alors, c'est peut-être ça le sous-entendu, c'est de dire, c'est facile de sortir quand tout le monde l'a mis sur le bûcher, de dire, je vais jeter du feu moi avec, mais est-ce que la Deutsche Bank voulait vraiment continuer ou simplement dire, on va régler nos dettes actuelles avec Donald Trump? D'après moi, c'était pas, le plan n'a pas changé.
Penses-tu que ces business sont solides?
Écoute, des terrains
de golf,
des hôtels, des casinos, tu sais, on s'entend, c'est des... Là, c'est vraiment terrain de golf, hôtel, immeuble. C'est quand même de l'immobilier. Mais est-ce que ça a perdu de l'argent dans les dernières années? Ben, surtout la dernière à cause de la COVID, oui. Donc, mais ça demeure des actifs immobiliers. Maintenant, il faudrait qu'on ait le décompte de ce qui est des actifs, des passifs, faire l'évaluation... Mais lui, il s'en sort tout le temps. Hein. C'est ce qu'on appelle un modèle de levier financier, Patrick.
OK, parle-moi des cartes cadeaux. Il y a des compagnies qui récompensent leurs employés avec des cartes cadeaux.
Oui.
Est-ce qu'il y a un péril fiscal là-dedans?
Ben, pas tout à fait. C'est que Metro, dans le fond, annonce qu'au lieu de ramener une prime COVID, ben, il dit, on va donner des chèques, là, des cartes cadeaux à nos employés. Je sais pas, moi, par exemple, 75 à 300 $
Mais c'est imposable.
Oui, mais c'est ça, parce que c'est... de l'espèce ou du quasi-espèce selon la loi ou selon la loi de l'impôt. Et donc, c'est techniquement imposable comme du revenu, puis ça va être sur ton T4. Mais l'avantage quand tu donnes une carte cadeau, Patrick, si je te donne 100$ de carte cadeau métro, là, tu vas voir le chiffre d'affaires de métro, tu regardes le coût des marchandises vendues et tu vois une marge brute sur les marchandises de 20%. Et donc, ton 100$ te coûte combien? 80$ de marchandises. Et en plus, quand tu donnes 100$ à ton employé, d'habitude en dollars, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va le dépenser au Superclub Vidéotron. Tu comprends? Je blague, là, mais il va ailleurs. Il va au restaurant. Il va...
Parce là, que là, il reste dans ta business.
Tu lui donnes 100$, t'es sûr qu'il va dépenser son 100$ chez Metro. Puis en plus, ton 100$ que tu lui donnes, te coûte pas 100$. Il va te coûter 80 cents dans pièces en matière première. Et donc, tu vas encourager en plus le roulement de tes stocks. Donc, c'est bien mieux comme ça. L'autre point, c'est de dire... dépendant de comment il calcule tes affaires, c'est pas de la paye qui semble récurrente. Donc, l'employé ne le verra pas dans sa paye au niveau psychologique comme une paye. Et donc, la paye suivante ne verra pas ça comme une diminution de paye, tu comprends?
Donc, c'est très habile.
Ben, c'est habile parce que tu dis, je te donne une valeur, un cadeau. Puis là, le cadeau est dans tes mains, puis tu le vois passer, mais dans la réalité, tu as de l'impôt à payer là-dessus. Ça me rappelle, Patrick, quand je travaillais dans un bureau comptable. À un moment donné, la haute direction du bureau comptable, voyant qu'on faisait 70 heures par semaine, se dit, c'est sûr qu'avec leur salaire fixe, on est en train peut-être un petit peu de les faire travailler fort. Alors, ils avaient instauré ce qu'on appelle le Brown Day.
Le quoi?
Le Brown Day.
Le jour brun. Brune.
Et là, ils nous avaient envoyé un chèque cadeau Visa de 100$. Et là, nous autres, tu comprends, on était comptables, on s'en va les boss et dit, écoute, si mes 20-25 heures d'overtime par semaine valent 100$, tu peux le garder, t'en as plus besoin que moi. Mais c'était drôle parce qu'on a fait une joke en disant le Brown Day. Tu sais, il avait appelé ça le jour brun parce que c'était un chèque brun de l'employeur. Mais ça, c'est symbolique. C'est un peu comme Jean Chrétien. Tu te souviens, Jean Chrétien, sa stratégie? Envoyer un chèque avec la feuille d'érable dessus.
Oui.
Lui, il disait, l'électeur, il reçoit un chèque avec la feuille d'érable dessus. Et ça, il s'en souvient pas mal plus, effectivement, qu'un virement bancaire dans ton compte de banque. Donc, la carte cadeau, c'est une stratégie corporative d'attachement, de rentabilité et de t'assurer que les employés comprennent le message corporatif de « on achète chez Metro et on dépense chez Metro et on est heureux chez Metro ».
Le patron m'informe qu'on va t'envoyer une carte cadeau pour ta prochaine paye.
T'es bien gentil, des billets pour le Canadien, je vais être seul.
Salut Pierre-Yves. Salut.